poursuivant la célébrité des dédicaces de libertaire et jamais perdu, pour un sens avec Dieu, vous aurez pour à tour le mot de l'éditeur, le mot du préfacier, vous aurez les clés de lecture pour apprendre à lire et à comprendre cet ouvrage, vous aurez une note de lecture, je vous ai donné ça, dans un ordre qui n'est pas forcément chronologique, qu'il ne soit pas. À présent, d'introduire l'éditeur, celui qui a accepté de porter la charge de mettre ses livres en public. Est-ce qu'on peut applaudir dans la salle d'édition et essayer de représenter qui va aller sur la scène et qui nous dira non pas un mot, mais plusieurs lignes sur le travail qui a été fait. Veuillez applaudir en mesdames et messieurs.
Effectivement, le livre de Madame Etoudi En tant qu'éditeur, moi personnellement, ça m'a fait penser aux fictions qu'on regarde dans les télé-novelas ou même dans Hollywood. Vous voyez ce genre de film dans lequel le héros, les acteurs principaux, mangent de la misère et boivent des torrents de larmes. Mais sauf que ici, l'histoire de Marie-Dorothée Bala n'est pas une fiction. C'est l'histoire de sa vie, c'est l'histoire de son enfance orpheline dans le Colomba, c'est cette enfance sans père, cette enfance où la souffrance est le quotidien. C'est l'histoire de la recherche de la maternité. Bref, c'est l'histoire d'une vie de combat interminable. En fait, les thèmes soulevés par ce livre touchent à un problème existentiel de la société d'aujourd'hui. On a de plus en plus d'orphelins dus à la guerre, à des maladies, d'épidémies et divers fléaux sociaux. On a de plus en plus de mères seules, qui crient seules pour élever leurs enfants. On parle de foyers monoparentaux. On observe également le taux grandissant de l'infertilité. C'est un problème social aujourd'hui. Dans cette nuit noire qu'est cet ouvrage, ce livre de Mich ou Marido, je me permets de l'appeler comme c'est un personnage de son ouvrage d'appel. Peut-être qu'au cours de cette intervention, elle nous dira pourquoi tantôt on l'appelle Mich et parfois simplement Marido pour dire Marie-Dorothée. Moi, je n'ai pas compris cet aspect-là, peut-être que vous pourrez régler ça tout à l'heure lors de sa prise de parole. Alors, je le disais, le livre de Mich ou Marido nous invite à garder une petite lueur, à ne pas laisser la lampe s'éteindre. Un peu comme les vierges prévoyantes de la Bible, dans Matthieu 25, verset 1er chapitre, elle a gardé toujours un peu d'huile dans sa lampe, s'accrochant avec force à l'espoir que Dieu, que Christ est vivant et qu'à tout moment il peut intervenir pour apporter le salut. En tant que maison d'édition d'inspiration chrétienne, un tel ouvrage ne pouvait que trouver un écho favorable chez nous aux éditions clés. Il a été accepté. Et comme d'habitude, vous savez, dès qu'on accepte un livre dans une maison d'édition, la première réaction de l'auteur, c'est de savoir si la semaine qui suit, le livre serait déjà dans les bacs. Bon, avec elle, comme je l'ai dit au départ, il y avait beaucoup de soucis sur le texte. Il y avait un énorme travail. À faire pour toiletter le texte et le rendre effectivement publiable. Donc avec l'auteur, on a pu trouver un point d'entente et les expertises ont été mises à contribution pour retravailler complètement le texte. Grâce à d'autres apports, il y a même des parties qui, pour X ou Y raison, ont été élaguées. Plus tard, il a fallu faire la mise en page, revenir à nouveau et envoyer le livre à la presse pour obtenir à la fin le produit que nous savions ce jour, le produit que nous célébrons en ce moment. Marie-Dorothée est une femme battante. C'est une batailleuse. Mais une batailleuse qui sait garder le sourire. Son histoire qui est racontée dans ce livre fait d'elle assurément ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un coach de vie. Et notre vœu, à défaut qu'elle devienne elle-même une influenceuse, pas le genre d'influenceuse, bon, je ne vais pas utiliser destinée s'appelle mort, on peut te dire que nous sommes en ce moment. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Mon souhait est que ce livre influence la vie de tous ceux qui, à un moment donné, se sont retrouvés au creux de la vague, au fond de la Bible. Je termine simplement en souhaitant que ce livre connaisse le destin qu'il mérite et qu'il soit un véritable succès en librairie et dans les bibliothèques. Je vous remercie.
Merci beaucoup, je suis heureux d'avoir assisté à notre famille, Marie-Dorothée. À présent, mesdames et messieurs, on va signaler tout à l'heure et un peu facile. Et c'est une lourde responsabilité également dans le domaine littéraire, parce qu'il donne et il se donne et il recommande à lire. Et si on est déçu, on commencera par frapper sur lui. Il est un peu une sorte de martyr, le martyr sur lequel on frappe lorsqu'on n'est pas content de ce qu'on a lu dans le livre. Qu'il nous soit permis d'introduire le préfacier, c'est Emmanuel B. Emmanuel B.
par sa simplicité, par sa clarté, par son émotivité et par son efficacité. La majorité dit les choses simplement, comme si elle avait placé sa vie, son enfance, sa maturité à s'observer vivre. Elle décrit avec beaucoup de couleurs, des émotions, des moments, comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure. Et donc, c'est un livre qu'on a envie de partager, pour cette raison, pour la beauté de l'écriture. Et puis, la troisième raison, qui a fait l'objet de débats entre nous, on va dire jusqu'à quelques jours de la mise en place de l'ouvrage, la troisième raison, c'est l'impératif de la transmission. Nous ne partageons pas assez. Nous ne partageons pas assez nos souvenirs. Nous ne partageons pas assez avec nos enfants ce que nous avons vécu. C'est même comme s'il y avait une génération de parents qui veillaient à ce que leurs enfants ne sachent pas par où ils sont passés pour être ce qu'ils sont. Anna Arendt dit, nous sommes le fruit de ce que nous avons vécu. Et la majorité dans cet ouvrage s'engage dans un exercice de partage, de transmission d'une époque, d'une génération, d'une lignée, parce que c'est aussi un livre de femmes, d'une lignée de femmes, comme nous en avons tous connu dans nos familles, dans nos campagnes, de femmes fortes, de femmes battantes, qui réussissent à braver les obstacles de la vie pour s'imposer. Et donc, cet exercice de transmission est une motivation supplémentaire pour entrer dans le compagnonnage, dans la fréquentation, pour entrer dans le face-à-face avec cet ouvrage. Voilà simplement ce que je voulais vous dire pour cet ouvrage, en vous remerciant tous, toutes et tous, de pouvoir le découvrir, le redécouvrir, et de prendre le plaisir à entrer dans la sincérité de l'âme que Marie-Dorothée nous offre. Je vous remercie.
Merci. Alors, c'est moi qui suis avec Emmanuel Bélier, meilleur enseignant de l'université. Il est journaliste et il est responsable à la CERTI. Travailler avec ses amis n'est pas facile. Parce qu'on connaît des amis ici, que quelquefois il y a eu des engueulades entre Mich et Emmanuel Bélier, qui ne s'accordaient pas sur la réalité du texte. Fallait le dire comme ça, fallait le placer comme ça, mais comme c'est votre ami, vous avez du mal à contredire, vous avez du mal à me dire que je veux que ce soit comme ça, il a apporté la rigueur professionnelle. Il y a eu ici l'exercice, ça n'a pas été facile. Est-ce qu'on peut applaudir pour Emmanuel et l'auteur qui ont réussi à traverser cela, c'est jamais facile. Et maintenant, on veut des clés de lecture. Comment arriver justement à lire? Que doit-on comprendre? Il y a certainement des entendus, des sous-entendus, mesdames et messieurs. Ça fait beaucoup de plaisir que je vais introduire un aîné que je vais appeler ici sur la scène, Daniel Alice Noir. Daniel Alice Noir, pour la grosse lecture.
Mais je voudrais indiquer ces cette réversibilité, cette importance de la double matière de cet ouvrage, ça sera vraiment un peu de plaisir de lire cet ouvrage. Dans un premier sens, cet ouvrage est tout simplement un roman dans des conditions tellement inattendues. Comme tout le roman, le lecteur va apprécier ce que les théoriciens appellent un roman picaresque. C'est un roman picaresque, c'est un roman dans lequel le héros marche sur des serpents, traverse des cavernes, affronte des fantômes, vit dans le suspense, monte dans des avions qui menacent de passer par le cabot, qui voyage avec sa mère vers la Centrafrique par voie routière, et sa mère décède au retour sans avoir aucune nouvelle du père de chercher. C'est un roman dans lequel l'héroïne parcourt les hôpitaux à la recherche de ses. L'héroïne parcourt les hôpitaux à la recherche de la maternité sans vraiment d'abord trouver de solution. Les voitures tombent en panne, vous l'avez appris tout à l'heure, dans le village de combat, c'est le père qui vient porter les hommes et le père n'a quelques places et il vient tous les deux jours et quand il vient, si vous n'avez plus de place, vous attendrez encore deux jours. Et c'est lui qui choisit les personnes qu'il va porter. C'est tellement cinématographique. La vie en pays, verrez je crois, est racontée par un musicien qui s'appelle Salamou Kono et qui chante cette dame qui a été choisie par le chauffeur dans les sept points critères. Et les autres dames vont monter avec leur planteur à la même arrière. Avec la cabine, même le gars de la cabine, il y a un homme là. La personne qui a été choisie est vraiment dans un bonheur. Non seulement elle va voyager, elle a la bonne place. Ah, mais les autres, elles vont attendre deux jours plus tard. C'est un moment d'aventure. C'est un roman de suspense. Va-t-elle retrouver son père pour ce deuxième voyage en RCA? Qui va-t-elle trouver? Arrivée là-bas pour le deuxième voyage, le père n'est plus en Centrafrique, il est aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il va arriver? Toutes ces narrations qui nous amènent jusqu'au bout de l'émotion, jusqu'à la pratique de l'inconnu, sont l'essence de ce roman que je vous en passe des anecdotes qui sont ici transformées en narratif, des scènes qui sont sublimes. Mais le deuxième versant de cet ouvrage, qui n'apparaît pas dans cette affiche, que rien n'est jamais perdu, le deuxième versant c'est pour Dieu, tout a un sens. Et là-dedans, j'avais déjà lu, je crois, André Gide dans son journal. André Gide a écrit, auteur français, un journal intime dans lequel il se plaisait à dire que Dieu est dans l'intimité des anges. Lorsque j'ai lu l'ouvrage de Marie-Dorothée Mara, à la page 222, je crois, elle dit, nous ne savons pas assez que nous vivons dans l'intimité de Dieu. Et c'est ainsi que le même ouvrage de 30 chapitres, nous sommes obligés de le reprendre maintenant comme un ouvrage de philosophie. À chaque étape, nous retrouvons Marie-Dorothée, nous retrouvons l'auteur dans le compagnonnage de Dieu. Chaque chose qui était une vie malheureuse, une vie d'inattendue, une vie d'inquiétude se transforme. Quand on dit pour Dieu, tout a un sens. La sémiotique, c'est la science qui recherche le sens des choses. Et chaque chose qui nous arrive comme signe a donc une sorte de signification à rechercher. Mais je vous passe le reste. La fille qui cherchait dans tous les hôpitaux à résoudre son problème de maternité aura finalement la maternité. La fille qui n'avait pas de carte d'identité pour faire son examen de PEPC, elle fera finalement son examen et fera même d'autres études. La fille qui n'avait pas de mère, l'orpheline, dont la mère parlait dans les songes en disant « Je ne veux pas qu'on coupe les cheveux de mon enfant avant le jour de sa première communion, parce que je veux qu'elle fasse sa première communion avec tous ses cheveux. » Et une fille de miracle, la grand-mère qui garde l'enfant, chaque fois qu'elle doit dresser l'enfant, l'enfant pleure parce que ses tresses sont dures. La grand-mère pleure parce que ses tresses avec des éternels longs cheveux est dure. Mais tout le monde le fait pour être sur le chemin de la première communion. C'est ainsi que tous les signes qui semblaient seulement visibles dans le premier sens du livre devient visible et lisible dans le deuxième sens du livre. On avancera ainsi, on en apprendra dans ce livre et je préfère garder une sorte de suspense puisque la cérémonie est dédicace, c'est une cérémonie de marketing pour amener ceux qui n'ont pas encore sauté le livre, ceux qui n'ont pas encore lu. D'aller forcément vers cette. Il y a matière à courir à l'intérieur de cette. La troisième chose que je voudrais évoquer pour conduire ceux qui veulent lire ce livre, c'est d'abord de raconter l'histoire des lépreux avec Jésus-Christ. Et il y a des lépreux qui ont été guéris par le Christ. Presque tous, je crois, ou tous, ne sont pas revenus. Un seul a eu la force de revenir, remercier le Christ. Je crois que le Christ n'a pas retiré la guérison qu'il a donnée aux autres. Je crois que pour la personne qui est revenue, cette personne a rendu sa vie parce qu'elle a eu la force de revenir. Autre chose est d'être béni, autre chose est d'avoir la force de revenir. Pour cette ouvrage, Marie Dorothée ou Barat doit bénir Dieu. Parce qu'à un moment donné, elle dit qu'elle a eu des bénédictions, Elle a cité toutes les bénédictions, elle n'a pas cité celle qui est la force des créoles. La force de créer un roman de pure sang-de-cœur. Pour témoigner minute par minute de tout ce que Dieu a fait. Ce livre est un livre d'auteur. Le plus facile, Emmanuel, de le souligner, ce qui est précieux dans ce livre, c'est qu'il a un bel nom français. Il a un style du français. Il a une sublimation des adjectifs. C'est impressionnant. Nous savions. Une chrétienne dans l'intimité de Dieu et la littérature congolaise salue à l'ouverture. Merci.
On va peut-être à l'issue de moi. On va compter avec l'université de Rome magistral. Et c'est la note de lecture d'un jeune homme de 80 ans. Est-ce qu'on peut encore poser de la solution? Il a lu, il a posé son regard, il est entré, bonne envie de lire et d'acheter cet ouvrage-là. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, à présent. Il y a une musique particulière que le cœur a demandé, c'est sa manière à elle, parce qu'elle ne va pas beaucoup partir d'aujourd'hui, mais elle commence à parler par le chant. Vous savez, chez vous, quand un enfant naît, on chante. Quand on va en mariage, on chante. Quand on se réunit, on chante. Même lorsque c'est triste, on chante également. Et aujourd'hui, Marie-Laure a commencé un chant qui est particulier, que je vous invite à consommer.
Thank you.